podcast.com. Essaye ça.
Ne touchez pas à la loi 101. Ne touchez pas à la loi 101. Merci. Thank you.
Le crachoir, épisode 101, épisode consacré à la loi 101, mais on n'a pas le choix en temps de crise. Il faut prendre des nouvelles de son co-animateur pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on l'apprécie. Martin, comment ça va?
Écoute, c'est la première fois que je vais me servir d'une rhétorique que j'utilise souvent. Ça va se passer, mais que je m'en sers pas pour faire une joke. Là. Écoute, je te cacherai pas que dernièrement, je ne sais pas, on en a parlé un peu hors micro tantôt, mais on vit dans des temps très étranges. Et moi, je vais te faire l'aveu que je commence à m'en ressentir un petit peu. J'ai l'impression d'être dans le début, depuis là, n'allez pas penser que je compare, puis n'allez pas penser que je pense que ça va aboutir dans le même résultat, puis allez pas... Là, oubliez pas, j'ai un ménage du dimanche qui roule, là, fait que sortez-moi pas des apocalyptiques rires de fou, là.
Tu fais pas de rêve mais... éveillé comme Linda Hamilton dans Terminator 2 d'un futur
apocalyptique
où les robots attaquent les humains.
Non, mais je me sens pareil un peu comme dans le premier épisode de Walking Dead. Tu sais, le gars, il est dans le coma, il a été pris dans une fusillade. J'oublie son nom, là, ça fait tellement longtemps.
J'ai jamais vu aucun épisode. Fait que je peux
là, il sort de l'hôpital, puis là, il se rend compte qu'il est dans une situation apocalyptique. Tu sais, il n'y a plus personne dans les rues, tu sais, tout ça. Il était, je pense, dans le coma ou quelque chose de même, dans mes souvenirs, en tout cas. Puis, cette semaine, c'est la première fois que j'ai eu un soupçon de penser à ça, là, tu sais. Je t'expliquais justement que, tu sais, il y a une petite épicerie, de quartier, là, ici à côté, puis là, j'avais besoin de certains produits qu'il n'y avait pas. Fait que je suis allé au Super C, puis c'est vraiment été la première fois, là, tu sais, que parce que j'avais pas le choix, dans une certaine mesure, que j'ai été mettre dans du monde, là, comme, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, en respectant les règles, laver les mains avant, après, quasiment pendant.
Le petit panier propre.
Bah, c'est ça, mais, non, c'est ça. Fait qu'écoute, je me sens un petit peu comme ça. Rick s'appelait le fameux shérif dans Walking Dead. Je me sens un peu comme Rick, tu sais, qui se réveille de son coma. Tu sais, un peu comme si mon coma, moi, ça a été la non-nécessité que j'ai eu de sortir pendant plusieurs jours. Je travaille pas mal, tu sais, je fais bien du montage, mes trucs avec mes clients, mes médias sociaux, tout ça. Puis là, on dirait, j'ai apprécié comme un peu pour la première fois l'espèce d'étendue de, tu sais, de tout ça.
T'as pu mesurer, là, tu sais, comme on dit.
Saisi la mesure des répercussions, tu sais, logistiques de tous les jours que ça sous-entend, tu sais, j'étais dans un quartier pas mal passant de Montréal et tout ça, puis là, ben écoute, c'est les tumbleweeds, puis tu sais, tu vois un jogger ou deux de temps en temps, puis tu sais, là, mais c'est ça, c'est...
Moi, ça fait penser
à... Je manque un peu de mots, c'est très weird.
Dans Resident Evil, mais ici aussi à Rouen, même en plein jour, les rues sont désertes, il se passe absolument rien. Fait que rien de changé pour l'instant, la pandémie ne touche pas apparemment. Non, c'est pas aussi mort qu'on peut s'imaginer, ceux qui sont jamais venus à l'Abitibi, c'est quand même, Rouen est une ville quand même assez dynamique. Puis là, c'est effectivement mort. Puis moi, j'ai commencé à le mesurer pour vrai. Cette semaine, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, on est fermé là, où je travaille, c'est une salle de spectacle. Là. C'est évident qu'on est fermé depuis longtemps. Là. La mesure des rassemblements de 250 personnes et moins, ça a duré 20 minutes. Là. On a fait un show, je pense, sous ces mesures-là. Là. Un événement, même pas un vrai show. Puis puis là, évidemment, là, c'est fini, c'est fermé, la clé dans la porte. Là. Mais vu mon travail, je peux quand même me trouver des projets. J'aurais pu prolonger un peu ma période d'emploi, mais... j'ai décidé de m'isoler de façon un peu plus complète pour des raisons de prudence qu'à 20 ans j'aurais jamais pensé appliquer, mais j'ai eu des problèmes drôles de problèmes de santé de toute ma vie là, des inflammations inexpliquées, puis le genou qui enfle, ça, personne ne sait pourquoi, même pas le médecin, puis j'ai fait des inflammations au péricarde, ça m'a donné des grosses péricardites, il a fallu que je me fasse opérer d'urgence parce que j'étais en train de mourir du cœur à cause d'une inflammation du péricarde. Puis moi, c'est quand je suis allé comme tout bon internaute me faire peur sur Internet. Mais je suis pas allé me diagnostiquer rien, là. Je suis pas ce genre d'hypochondriaque-là. Mais je suis allé voir ce que faisaient les symptômes du coronavirus, puis qu'est-ce qui faisait que c'était dangereux, parce que j'aime ça, apprendre des choses. Puis j'ai vu que c'était ce qui tuait, ce qui rendait la maladie fatale, c'était une inflammation des poumons. Puis moi, l'inflammation, c'est ça qui a failli me tuer quand j'avais 30 ans. Fait que on dirait que ce mot-là m'a comme fait réaliser que...
Ouais.
Je devrais peut-être faire un peu plus... Tu sais, je faisais déjà attention, je me lavais les mains, puis je lavais les poignées de porte, puis tu sais, je sortais pas, j'allais pas dans des rassemblements, j'allais juste à ma petite job la nuit, puis où j'allais de jour, mais tu sais, je côtoyais pas vraiment beaucoup de monde, mais sachant que le virus sur quelque chose d'aussi... stérile que du stainless steel ou du plastique, le virus peut survivre plusieurs jours là-dessus. Puis encore plus, c'est réfrigéré. Hein? Ceux qui pensent que oh, moi, j'ai laissé mes affaires là, dehors, là, mon épicerie, là, c'est tout au fret, fait que je suis sûr qu'il n'y a plus rien de vivant. C'est le contraire. Quand le virus est réfrigéré, il peut toffer à place de 2 à 3 jours, c'est plus d'une semaine, 2 semaines. Puis quand il est congelé, le virus peut rester dangereux pendant des années. Fait que le froid ne tue pas le virus, le chaud non plus, puis contrairement à ce que Trump pense, le printemps, la chaleur du printemps ne tuera pas le virus. Il veut réouvrir l'Amérique. Attends pour Pâques, parce que ça va être magnifique de voir les églises pleines de monde, puis...
Hey, moi, j'ai envie de faire un shout-out à du monde, là. Tu sais, les pro-Trump, là, puis les espèces de, tu sais, de protège. Ceux qui aiment ça être à contre-courant, puis dire qu'ils aiment Trump, puis le quitte, là. Vous avez quoi à dire de votre tata, là, de ce temps-ci, là?
Ceux que je vois sur Facebook, ben, eux autres, ben, Trump a pas des supporters, il y a des fafans, là. Ou, ouais. Tu sais, pour ne pas dire des adeptes. C'est quasiment un gourou. Puis ceux que je vois, puis j'en délite de plus en plus parce que j'ai assez de cave dans ma vie. Je peux épurer un peu mon Facebook, là. Ils sont d'accord avec lui ou ben ils achètent des théories de conspiration. Il y en a qui disent que c'est pas vrai. Tu sais, de toute façon, vous les voyez passer les théories de conspiration. Ça a été créé en laboratoire, puis toutes sortes de niaiseries, là. Toutes sortes de niaiseries. Mais ceux qui tripent sur Trump, là, je pense que normalement, là, on devrait avoir déjà compris que ces gens-là sont imperméables aux faits. Puis que peu importe ce que Trump dit, pour eux autres, il dit vrai. Puis quand il se fait démentir, ben c'est le média qui ment puis qui fait des fake news pour les nuire. Puis, tu sais, ces gens-là, ils réfléchissent pas par eux-mêmes, là. C'est pour ça que je compare Trump à un gourou. C'est parce que pour eux autres, s'il dit, c'est vrai. Puis même s'ils leur mettent d'en face la preuve, là, d'en face, tu sais, là, comme quoi il a menti puis que c'était pas vrai, ben c'est un complot ou ben il y avait des bonnes raisons, ben tu sais
qu'est-ce que tu réponds d'abord à ceci là? Ben toi t'es pas un pro Trump là, mais tu sais qu'est-ce que tu penses qu'ils vont répondre par exemple à au début de la crise vers la fin février tout ça que Fox News disait la même affaire que Trump, il disait c'est un hoax. Ils ont dit en ondes que selon eux autres, c'est un hoax, c'est-tu. Mm-hmm. Là, chez moi, que là, on croit Trump, puis c'est en laboratoire, ils croyaient même pas qu'il y avait un virus, point.
Oui, il y en a encore qui croient ça.
Mais oui, mais OK.
Il y en a qui pensent que c'est le 5G, puis que c'est ciblé, puis que c'est...
Ben moi je suis pas où je suis pas d'accord avec toi, c'est que ou peut-être je suis très naïf puis que tu sais j'ai pas saisi toute l'étendue du fanbase de Trump, mais dans les fans de Trump là, tu sais c'est pas tous des extrémistes trumpistes là, tu sais il y en a qui c'est à cause que il adhère sont plus de droite puis tu sais les mesures au niveau de l'immigration pis ces affaires là. Chris, c'est pas tous des sans dessin morons là quand même là. Eux autres ils ont quoi à dire?
Il y en a beaucoup là. Tant qu'à moi si tu tripes sur Trump c'est t'es soit evil ou cave.
En tout cas.
Parce que si tu comprends toute l'implication de ces décisions puis ça te dérange pas. T'es une mauvaise personne. Pis si tu comprends pas, puis tu fais juste répéter bêtement, ben t'es un cave. J'ai lu aujourd'hui que, tu sais, dans un débat comme ça sur Facebook, il y en a qui disaient, ouais, ben le problème, là, c'est que la cure est pire que le problème. Ça, c'est, t'sais, traduction directe et maladroite des mots de Trump, là. T'sais, ces gens-là réfléchissent pas, là. Ils prennent les mots du maître puis ils propagent la nouvelle, là. C'est comme un gourou, comme une religion. C'est du fanatisme.
Je suis assommé ben raide, puis écoute,
il y a beaucoup de pro-républicains qui sont juste evil, là. Que pour eux autres, bon, ben, regarde, là, qui va crever, là? Les vieux, ça rapporte pas une scène.
Oh, ouais.
Ceux qui ont pas accès aux tests de coronavirus, qui coûtent 1 600 $, puis ceux qui ont pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital, des pauvres qui nous coûtent de l'argent, qui rapportent pas une scène. Qui crève, Carlis? Ça va assainir notre pays. C'est certain, ça, je te jure, c'est certain, je mettrais ma main au feu qu'il y en a beaucoup qui ont cette mentalité.
Ah ouais, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr.
Qui creve, asti? Si on pas les moyens de se payer l'hôpital, là, ils ont pas les moyens de vivre. Tu sais, puis en plus, c'est nous autres qui payent ça, là, t'sais. C'est certain, là. T'as-tu vu, là, la part qu'ont apporté les milliardaires à la recherche puis pour aider le coronavirus, tu sais, pour aider les gens qui les ont rendus milliardaires, c'est-à-dire la planète, là. Ceux qui sont milliardaires, c'est parce que leur marché, c'est la planète Terre, là. C'est tous les humains, là. Ça serait la moindre des choses que d'essayer au moins d'aider un peu. Puis, par exemple, Facebook a donné 0,01%, tu sais, de ce qu'il y a, là. Tu sais, le monde dit, ben, il a quand même donné 20 millions. Ouais, ouais, mais tu sais, quand t'es multimilliardaire.
C'est ça qu'ils ont fait.
C'est comme si tu. Puis ça, c'est Radio-Canada qui a fait cette comparaison-là, ce calcul-là. Je me rappelle plus lequel des multinationales, multimilliardaires qui avait comparé, mais cette compagnie-là donnait 20 millions. Puis là, ça a l'air bien impressionnant, 20 millions, mais quand tu rationalises, ça faisait exactement comme si quelqu'un qui gagne 100 000 par année donnait 20$.
Ben ouais, c'est ça. Ils ont fait ça, 20 millions, depuis qu'on a commencé le show, Frank.
Ben oui, non, mais c'est ça. Mais pas de danger, tu sais, qui partage, qui aide un peu les autres êtres humains, là. Non, oui, on le fait parce qu'on est obligé, moralement, plutôt question de relations publiques. On met un chiffre avec des millions, ça va impressionner le monde. Les pro-capitalistes, ils vont dire, ah, ils sont généreux. Puis ça va endormir le monde, puis ils vont avoir l'impression qu'on a fait notre part, mais le cash, on le garde, même si on n'en a pas besoin, même si on en a plus, qu'on n'en dépensera jamais. Parce que le jeu, the name of the game, c'est de ramasser le plus de milliards possible, tu sais.
Mais qu'est-ce que tu réponds, Frank, aux tatas qui disent que, tu sais, on capote avec ça puis qu'on devrait pas s'en faire autant que ça parce que c'est 0,003% de la population mondiale puis ces affaires-là qui est morte parce qu'on parle pas à tuberculose. Tu leur réponds quoi, toi, à ces hosties de bozos-là? Moi, j'ai ma réponse, là, mais regarde.
Moi, je dirais, man, vas-y, licher des poteaux d'autobus pis de métro.
C'est ça.
Je m'en sacre.
Ben, c'est drôle ça. C'est pas grave.
Vas-y, mais contamine une personne d'autre. C'est, le problème de ça, c'est que ce cave-là, il va aller là, mais après ça, il va aller à l'épicerie, puis il va aller partout, il se lavera pas, puis il va contaminer d'autres mondes. Puis quand il sera malade,
c'est ça.
Quand il y aura le coronavirus avec les symptômes sévères, puis qu'il va être sur une machine, puis qu'il va être en attente d'une machine pour respirer, parce qu'il va y avoir des cas plus urgents, puis les machines seront toutes prises, ben là, il va peut-être regretter ses paroles. Mais il va être trop tard, puis il va avoir appris ça pour rien, parce qu'il va peut-être crever. Puis de toute façon, même s'il apprend...
Moi, je suis plus capable.
Même s'il apprend, puis il s'en va voir ses anciens collègues qui trippent, ses anciens co-sectaires qui trippent sur Trump, puis leur dire, hey, moi aussi, je disais ça avant, puis je me suis trompé, je l'ai eu, la maladie, puis c'est pas un hoax, puis tout ça. Mais ils vont dire, ben c'est ça, tout est dans la machine, combien t'es payé pour dire ça, puis gna 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 gna. Rien à faire. C'est un mal qui est encore plus incurable que coronavirus, la stupidité, là. Puis il y en a beaucoup sur Facebook ces temps-ci, les théories de fous pullulent encore plus vite que les fausses nouvelles qui les alimentent sortent. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps où l'armée ramasse. Il faisait juste rapatrier des équipements pour un entraînement qui a été annulé.
Ah ouais.
Puis ben c'est ça, la loi martiale, l'armée dans les rues, on n'aura plus de droit pantoute, puis on pourra plus sortir, il faut avoir nos papiers comme dans les films. Si jamais ça arrive, la loi martiale, là, ça va être à cause de vous autres, les paranoïaques, puis les caves qui croient pas, qui prennent pas ça au sérieux, puis Mais la loi martiale, on se rendra pas là, là. Pas la vraie loi martiale. Il y aura pas des... même la loi martiale existe. T'sais, pas dans la même forme où on l'entend. Là. T'sais, les mesures de guerre, ça n'existe plus, ça a changé. Il y a encore une forme de loi martiale qui est possible où l'armée peut collaborer ou remplacer même la police. Mm-hmm. Mais pas une loi martiale où, en tout cas, dans ce cas-ci, aucune chance qu'on se rende là, là. Une loi martiale où l'armée dit le gouvernement, t'es plus légitime, t'as plus t'as plus l'autorité puis le pouvoir de gérer le pays. L'armée prend le contrôle du pays. Ça arrivera pas, là. Ce qui existe, c'est la loi des mesures d'urgence, qui est un peu une version allégée de la loi des mesures de guerre, qui fait que l'armée peut intervenir, mais c'est pas l'armée qui vient supplanter le gouvernement comme la loi martiale, comme on la voit dans des films ou dans le passé ou ben dans d'autres pays, là. Ici, c'est pas ça. C'est que l'armée va peut-être être utilisée par le gouvernement, venir appuyer les forces policières ou ben juste faire des missions de paix, là, tu sais, juste faire des hôpitaux,
c'est ça,
amener de la bouffe à du monde, faire des shelters pour les sans-abri. L'armée va faire ces choses-là, là, mais ils vont pas se promener avec des mitraillettes à demander le papier à tout le monde, puis à mettre le monde en prison avec des jugements sommaires, puis ça pas avoir besoin de mandat pour arrêter le monde puis les sacrer en prison comme dans la crise d'octobre, là. Ça n'existe plus, ça. Puis je pense pas que notre gouvernement va s'effondrer, là, au point où que l'armée est obligée de prendre le contrôle du pays puis de gérer la santé, là, OK? Je pense pas que ça arrive. Fait que arrêtez de paniquer avec ça, là. Il y aura pas de vraie loi martiale comme dans les vues, là. Le pire qu'il peut avoir, c'est la loi des mesures d'urgence. Puis oui, ça va être plus autoritaire. Oui, c'est une genre de forme de loi martiale, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer quand on dit l'expression loi martiale, là. Calmez-vous, respirez par le nez, ça va bien aller.
Si le monde reste pas en dedans, tu sais, c'est le pire, c'est que c'est ceux qui se lamentent, que tu sais, c'est peut-être ça qui va arriver, qui se crissent des mesures que le gouvernement nous demande de prendre.
Oui, c'est ça que je disais tantôt. Si jamais ça arrive, ça va être à cause des caves qui dénoncent puis qui prennent pas ça au sérieux. Ça va être là que le gouvernement va être obligé de mettre son pied à terre, là. Parce que là, Justin Trudeau a demandé aux gens de s'isoler, puis là, ils s'isolent pas, ils reviennent de voyage, puis je sais pas si t'as vu ça passer, là, dans le coin de Québec, je pense que c'est dans le coin de Québec, deux vieux snowbirds qui arrivent de Floride, puis sont allés direct à l'épicerie avec leur gros ils voulaient aller faire l'épicerie là, ils ont sacré de voir, puis ils ont prévenu l'autre épicerie, le IGA, de ailleurs dans la ville, préparez-vous, vous allez avoir deux astis snowbirds bronzés.
Ben, il y a plein de
maladies.
Il y avait un Walmart, je pense que c'était à Candiac, tu sais, qui est pas tellement loin des lignes de la colle. Tu sais, il y a un Walmart là, puis c'était plein de véhicules de motorisés, tu sais, qui s'en allaient faire le plein de victuailles avant d'en aller chez eux. Non, c'est pas comme ça marche. Tu t'en vas chez vous.
Puis t'en vas quelqu'un.
Organise-toi après, là, tu sais, fais l'avenir, ou tu sais, je veux dire,
il y a des épiceries qui livrent, puis sinon...
Si t'as moyen d'aller passer l'hiver en Floride, t'as moyen de manger du Saint-Hubert 2-3 jours, là, fait que relax, là.
Ouais, premièrement. Puis deuxièmement, il y a certainement un voisin, là, qui accepterait d'aller faire l'épicerie à ta place, là. Paye-y son gage, je suis sûr qu'il va dire oui. Puis si t'as les moyens d'aller en Floride, t'as sûrement même les moyens de payer son temps aussi, fais le don.
Ben, c'est ça.
Puis fais-y pas acheter 3 paniers de papier de toilette à cette cave.
Ah, ça, j'embarque même pas là-dedans. Fait que là, ben, Frank, comme segue à tout ça, c'est vraiment c'est humoristiquement que j'ai sélectionné, en fait, je devrais dire qu'on a sélectionné cette chanson-là. C'est vraiment pas dans le but de faire freaker le monde, là. C'est bien plus parce que c'est la première fois, moi, en tout cas, depuis qu'on s'est parlé la dernière, que tu sais, j'ai eu ce soupçon, j'insiste, là, je suis pas en train de paniquer, mais j'ai eu ce soupçon-là d'espèce de sentiment pseudo-apocalyptique, je te dirais.
Une petite fragrance.
Fait que, une petite fois, c'est ça, une petite effluve odorifique de que c'est ça. Et ça donne, en fait, qu'avant de passer à notre prochain sujet puis de faire une petite pause, ben, on va écouter le thème, la trame sonore, en fait, d'introduction de Walking Dead.
Le Crachoir, épisode 101. On va en consacrer au moins une portion à la loi 101. Ça date de 1977 et c'est une loi qui a changé beaucoup en cours de chemin. Colin.
Ben, à commencer par son nom, là, tu sais, que nous autres, on continue de l'appeler la loi 101, mais techniquement, c'est pas ça. Là.
Oui, oui, c'est, mais c'est comme culturellement, ben, ça va rester
ouais,
la loi 101.
C'est le numéro de bill, là, ouais, c'est ça. Mais c'est la charte, en fait, là.
Oui, oui, c'est la charte de la langue française. Mais avant de parler comment elle était massacrée, on va expliquer ce que c'est. Parce qu'il y en a qui tout le monde connaît le nom, mais c'est pas tout le monde qui sait exactement partout où cette loi-là agit ou est censée agir, on va le dire comme ça. Oui, comme je l'ai dit, ça date de 1977. C'est le gouvernement péquiste de René Lévesque qui a adopté cette loi-là. C'était sous la tutelle du ministre d'État au développement culturel, Camille Lorrain. C'est l'Office de la langue française bon, qui applique la loi. Puis ça, c'est beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de pans de la société où cette loi-là a de l'effet. Premièrement, en éducation. D'ailleurs, c'est un des secteurs les plus sensibles de cette loi-là. L'accès à l'école primaire et secondaire en anglais est restreint aux enfants nés d'un père et d'une mère de citoyenneté canadienne ayant reçu son enseignement en anglais au Canada. Autrement dit, il faut que tu sois anglais et que tes parents soient anglais et canadiens. Ça te donne droit automatiquement à l'école anglophone. Sinon, les autres, c'est l'école francophone pour essayer de conserver le français parce que un des gros défis du français au Québec de le conserver, c'est l'immigration parce que beaucoup d'immigrants arrivent pas au Québec mais au Canada et le Canada n'est pas vraiment un pays bilingue là. C'est un pays anglophone, il y a une province vraiment francophone, c'est celle-là. Mais eux autres sont accueillis par le Canada. Ils arrivent ici, puis notre politique interne, ils sont pas au courant, ils s'en foutent un peu, ils veulent apprendre la langue de la majorité, c'est très compréhensible. C'est tout le Canada, les États-Unis, c'est tout ce qui nous entoure, hein, l'anglais. Fait qu'ils se disent, je vais me donner un peu de chance, hein, j'arrive dans le sur le nouveau continent, je vais parler la langue de la place. Il y a aussi toutes sortes de il y a des dispositions des précisions par rapport aux frères ou à ta sœur si elle a reçu son enseignement en anglais au Canada, tu peux toi aussi aller. Il y a comme des façons un peu de te glisser dans une école anglophone. Dans la justice, ça aussi, dans la version originale de 77, là, tout ce qui était les tribunaux, le judiciaire, là, ça devait être toujours fait en français. Ça a fini par être invalidé rapidement par la Cour suprême, l'arrêt Blakey. Ça, je vais en reparler un peu plus tard, tantôt. Mais bon, les lois québécoises doivent être adoptées en français puis en anglais. Ça, c'est le résultat de ça, parce qu'on est un pays bilingue. Pour l'affichage, ça aussi, on en a parlé beaucoup. On a vu passer pas mal.
C'est ça, j'allais dire. C'est surtout de ça qu'on a parlé. Tu sais, les gens sont attardés beaucoup plus à ça.
Mais dans l'histoire récente, ça a été beaucoup l'affichage. Mais l'éducation, ça a été quelque chose aussi. Je me rappelle au début des années 2000, une controverse. Les gens voulaient envoyer leurs enfants apprendre l'anglais dans une école anglophone. Sauf que ça, c'est le début des années 2000. Là. On est 20 ans plus tard. Puis résultat, ils sont tous allés à l'école francophone, vos enfants, puis ils parlent tout anglais. Okay? Ils sont tous bilingues. Toute la gang. Mieux que vous autres. Ou ils parlent le franglais. C'est-à-dire ni bien le français, ni bien l'anglais. Comme les Acadiens qui parlent le chiac. OK, puis le chiac, c'est pas une langue, je reconnaîtrai jamais ça. Le chiac, là, c'est l'assimilation là, rendue à 50-50. Là. Ça achève, là, bientôt, ça va chuter. Une couple de générations, puis au Nouveau-Brunswick, le chiac ne sera qu'un souvenir, ça va être l'anglais, point. Fait que non, c'est pas une langue, en tout cas, pas pour moi. Pour revenir à l'affichage, le français, il faut qu'il soit prédominant dans l'affichage. En fait, tout était supposé être en français. Les emballages, les modes d'emploi, les garanties, les boîtes, tout devait être disponible en français, mais prédominant en français. Il faut que ça soit écrit gros en français, puis petit en anglais. puis aussi, il y a quand même des choses qui sont... Je trouve ça drôle qu'on ait mis ça, cette espèce de disposition-là qui permet la tolérance des mauvaises traductions. C'est-à-dire que je vais vous dire ça comme ça. Techniquement, ça n'a pas besoin d'être en français ce que vous écrivez sur la boîte du produit que vous vendez au Québec. Il faut que ce soit des mots français. C'est-à-dire que si vous faites traduire votre texte anglais par un hindou qui parle pas français ni anglais puis qui fait juste taper une langue dans Google puis il met le résultat, puis le résultat fait que le texte en français est incompréhensible, fait aucun sens ou à peu près pas, ben ça passe.
C'est correct.
Il faut qu'il y ait des mots français. Regarde, ce qu'ils disent, c'est les traductions médiocres de l'anglais vers le français sont tolérées à moins qu'elles ne soient incompréhensibles pour les consommateurs. Mais je trouve que cet élastique-là, il est lourd sans maudit. Là. Ce que quelqu'un peut comprendre, quelqu'un d'autre peut ne pas le comprendre. Des fois, il faut interpréter pas mal. Hein, surtout les modes d'emploi, des fois, là. C'est pas juste mal traduit. Là. C'est pas
on traduit, pense à IKEA, puis on pense à tout ce que tu dois assembler. Là.
Tout ce qui est les cochonneries qui viennent de Chine, c'est rare que c'est bien traduit. Souvent, ça fait dur, puis souvent même sur la boîte. De toute façon, vous les avez vus passer depuis des années, les perles dans les journaux, les magazines, sur Facebook. Le monde répertorie ça, les mauvaises traductions, puis on met ça là. Puis c'est toujours très comique. Pour le travail aussi, ça a changé. Toutes les communications en milieu de travail, il faut que ce soit en français. Puis l'employeur, il doit communiquer avec ses employés en français. Puis ça a été un des gros combats des syndicats, notamment la FTQ, qui se sont battus beaucoup pour pouvoir exiger que les négociations avec les parties patronales se passent en français. Puis il faut dire que pour ceux qui sont pas très familiers avec l'histoire du Québec du début du siècle, du siècle précédent, on a changé, ça fait juste 20 ans, il faudrait que je m'habitue, c'est que les francophones, on était vraiment une minorité qui était opprimée au Québec, même si on était, non, pas une minorité, on était une majorité, mais on était opprimé de la même façon que des minorités le sont partout ailleurs. Toutes les jobs, les emplois de cadres, de gérants, de contremaîtres, de gestionnaires, toutes les positions de pouvoir, c'était toujours occupé par des anglophones. Et à travail égal, les francophones étaient payés beaucoup moins cher que les anglophones. Pourquoi? Parce que c'est les anglophones qui menaient, puis ça finissait là. Au Québec, là, je vous parle pas au Canada, je parle juste au Québec. Là. Vous alliez à Montréal, dans toutes les usines, il y avait des pissous. Tu sais, quand on dit « t'es un pissou », ça vient de « pea soup », soupe au pois, c'est comme ça que les Anglais nous appelaient. Les pea soup, c'était nous autres, les petits pauvres qui se nourrissaient de soupe au pois avec nos petits salaires d'ouvriers de merde. Puis aller travailler à l'usine, puis si tu manquais une après-midi parce que ta femme accouchait puis il y avait des complications, ben tu perdais ta job, puis fuck you frog, puis fuck you pea soup. Puis le monde s'en sacrait, là, je veux dire, des francophones. Le pouvoir était anglais, le gouvernement était anglais, tout se passait en anglais au gouvernement, surtout évidemment au fédéral. Puis même à cette époque-là, au provincial, il y a pas mal d'anglophones au pouvoir, plus qu'aujourd'hui. On ne confiait pas le ministère des Finances au gouvernement du Québec à un francophone. Tu sais, traditionnellement, on donnait toujours ça à un anglais parce que les francophones, les trop caves pour administrer de l'argent. On est des pauvres, on connaît rien là-dedans. Donner l'agriculture, là, à un francophone, là, ça c'est parfait, là. Les cochons, les vaches, mais le ministère des Finances, non, un anglophone. Puis si je me trompe pas, je pense que ça a changé pas mal à l'ère de Duplessis. Je pense que c'est... Duplessis, on peut y reprocher bien des affaires, mais il a quand même fait des avancées importantes pour le Québec, notamment en donnant certains jobs de pouvoir ou d'influence à des francophones. Puis en lui-même, en se hissant comme héros francophone, ça a été... Un de nos héros, faut le dire comme ça, même s'il a fait quand même beaucoup de mal, il a quand même fait du bien. c'est lui qui a décidé que le Québec était capable de gérer une partie de ses impôts. C'est à cause de lui que vous faites deux rapports d'impôts, mais c'est à cause de lui aussi que le Québec est capable de gérer une plus grande partie de son argent, donc d'exercer plus de pouvoir pour nous sans tout le temps se faire dominé par par le Canada anglais. Puis là, aujourd'hui, le Canada anglais, ceux qui ont dans la vingtaine puis qui m'entendent dire ça, il y a rien de menaçant là-dedans. Le Canada anglais, c'est plus trop, c'est plus ce que c'était, là. Mais il faut rester dans le contexte où, avant les années 60, on vivait dans une autre sorte de pays, là, où les francophones étaient condamnés à des jobs de gagne petit, à des très petites destinées. Puis on n'avait pas les mêmes prêts à banque, on n'avait pas aussi facilité à acheter des... J'irais pas jusqu'à comparer la... Il y en a qui disent « Ah, nègre blanc d'Amérique ». Premièrement, j'aime pas tellement le mot « nègre », puis je pense pas qu'on puisse comparer la situation des Canadiens français de l'époque, même si elle était difficile. On peut pas comparer ça aux Afro-Américains, là. L'esclavage, ça se compare à rien, là. Il y a rien de pire que ça, là. Fait que, mais quand même, on a été ostracisés, puis on a été dominés. Puis c'est en partie des choses comme la loi 101, même si moi je suis pas le plus ardent défenseur du français, vous le savez, j'aime ça le français, je m'arrange pour avoir un niveau de vocabulaire, disons, à la hauteur des idées que j'essaie d'exprimer, je vais le dire comme ça. J'essaie d'écrire dans le meilleur français que je peux, dont je suis capable, puis quand on me corrige, ben je suis reconnaissant de ça. Mais je suis pas, par exemple, en faveur des quotas à la radio. Ou ben je pense pas non plus qu'on devrait forcer des entreprises avec des noms anglais à changer de nom. Mais j'ai quand même un attachement certain à la langue française, puis surtout au combat que ça a représenté pour nos ancêtres, dont on bénéficie aujourd'hui, là. Parce que si... Tu sais, le monde aime bien ça, dire oh, « ok, boomer », puis on a l'impression que les boomers, eux autres, ils l'ont eu tellement facile, tout ça, ben, ils l'ont eu facile une partie de leur... Ouais. Ils l'ont eu facile rendu à 30-40 ans, là, mais dans la vingtaine, ils ont mené des combats qui dont la récompense a été leur les bénéfices qu'ils ont su tirer un peu plus vieux, puis... Il y a des bénéfices dont nous, on profite, qui viennent de leur combat à eux autres, là. L'égalité entre les sexes, là. OK, aujourd'hui, il y en a qui trouvent qu'ils sont dépassés, parce que c'est vrai qu'ils suivent peut-être pas toutes, là, les nouveaux aspects de la société, les transgenres, ils sont peut-être pas encore à l'aise avec ça, mais à un moment donné, à partir d'un certain âge, c'est plus difficile d'apprendre puis de s'adapter, là. Mais à leur âge, là, ben, c'était les peace and love, ils étaient dans la rue, eux autres aussi, avec des pancartes, là. C'est les milléniaux qui pensent qu'ils ont inventé ça, contester, manifester, puis se battre pour des causes sociales, là. Ben non, vous avez pas inventé ça. Ça existe depuis tout le temps, puis toutes les générations en ont fait, puis les boomers en ont fait beaucoup, beaucoup. Puis c'est en grande partie grâce à eux autres que vous êtes capables de mener les combats que vous menez aujourd'hui, les milléniaux. Puis j'ai pas peur de dire les milléniaux. De toute façon, je suis exactement sur la limite entre les milléniaux, puis... l'autre génération qui suit, là, je lis, je sais plus quoi, les Z, ou je sais plus quoi.
Moi, je pense que c'est X. Moi, je pense que je suis génération X, là.
Ouais, toi, t'es des dreads X. Puis moi, à 80, je suis sur la limite. Fait que je peux dire milléniaux quand ça m'arrange, puis rire des milléniaux quand ça m'arrange aussi. Ouais, je suis dread assis sur la clôture. Fait que je peux regarder les deux générations, puis dire, vous êtes tous des caves, il y a juste moi de collègue.
Mais Frank, on a déjà parlé, en fait, là, tu sais, de l'espèce d'oppression qu'il y avait eu, puis je me souviens très bien d'avoir dit ça, mais je vais leur dire encore, si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est une lecture super facile, là, tu sais, là, c'est pas des trucs super complexes et techniques, là, pis tout ça. C'est le livre noir du Canada anglais, les deux tomes. Lisez ça, là. Moi, je me souviens, là, les deux, je les ai lus chaque, là. J'en ai acheté un, je l'ai lu. L'autre est sorti, je l'ai acheté, je l'ai lu. Mais, tu sais, genre, un dimanche après-midi, là, je l'avais lu au complet, là, le premier tome, là. Pis ça vous donne des exemples probants de qu'est-ce que Frank est en train de dire là, tu sais, des exemples concrets là. Ça s'est passé où, il est arrivé quoi, tu sais, tout ça. Puis n'importe qui se rentre la tête dans le sable en disant ben ouais, là, on capote l'oppression des francophones puis des Canadiens français au tournant du siècle,
pas vrai,
tout ça. C'est pas vrai. Tout le monde oubliait ça là. Allez lire ça là. Puis je vous le dis. J'étais enragé quand j'ai fini. Là.
Quand vous allez avoir lu ce livre-là, vous pourrez pas vous enterrer la tête assez creux pour ne plus l'entendre et voir ça. Oui, Norman Lester, d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien les petites conspirations, là, a perdu sa job à Radio-Canada quand il a sorti ce livre-là qui s'attaquait au gouvernement canadien. Fait que d'ascenseur, ça existe encore. Puis ça sert à rien de vouloir... ça sert à rien de s'inventer puis de croire des théories de conspiration avec les journalistes, des affaires de fous. Il y en a des petites qui vous passent d'en face une fois de temps en temps, ça, c'en est une. Puis il y en a eu d'autres récemment, là, on se rappellera du licenciement louche de Dutrisac, qui était boudé par les libéraux et compagnie. En tout cas, je veux pas recommencer là-dessus, mais j'en ai déjà parlé. Je pense que ma théorie se tient, puis c'est pas une théorie de complot qui a pas d'allure. La loi 101 a quand même eu des bénéfices à court terme, très rapides, presque instantanés. Dans les premières années, on a eu plusieurs avancées pour le français au Québec. Entre 77 et 86, le pourcentage d'enfants immigrants fréquentant l'école française a triplé. C'est quand même déjà pas mal. C'était une des plus grosses menaces. Pas les immigrants sont une menace. Non, je suis pas un cave, je parle pas comme ça. Ce qui était une menace, c'est que ces immigrants-là arrivaient ici, n'apprenaient pas le français et ça diminuait le pourcentage du français au Québec, puis ça menaçait l'avenir de la langue. Ben, la loi 101 a fait tripler l'affluence des enfants d'immigrants à l'école française. Il y a eu, on a aussi noté une utilisation accrue du français dans le commerce, un peu partout. Même avant, dans les magasins, tu sais, si tu allais à Bénerie ou bien si tu allais à l'épicerie, tu te faisais servir en français, mais si tu allais dans un magasin de riches ou dans des gros magasins à The Bay, tu te faisais servir en anglais souvent, là, puis dans les restaurants UP. Hey, j'ai un flash. Ceux qui veulent juste avoir un aperçu de cette réalité-là, de cette époque-là, puis vous avez pas le goût de lire un gros livre avec des mots puis pas beaucoup d'images, allez voir le film Le Rocket sur la vie de Maurice Richard.
Ben oui, c'est sûr.
On voit très bien la réalité de ce que c'est des pea soup, des Québécois à cette époque-là. Puis en plus, le film est intéressant, ça parle de Maurice Richard, mais, ouais, mais on voit déjà une grosse différence puis de l'espèce de ségrégation linguistique qu'il y avait au Québec.
T'en as un autre aussi, c'est Louis Cyr, t'en as un peu aussi là-dedans. Oui. T'as tout l'aspect des Québécois franco, des Canadiens français qui étaient allés travailler au Massachusetts aussi, des usines de textiles. Puis quand Louis Cyr revient, puis tout ça, fait que non, c'est un autre bon film où tu vois des exemples de ça. Là. C'est sûr que c'est plus international que Maurice. Mais
j'ai un autre flash très, très, très culturel québécois, là. Ceux qui ont connu les filles de Caleb. Ah ouais, à un moment donné, Ovila amène Émilie dans un restaurant cher, UP de Montréal. C'est leur voyage de noces. Ooh. Et puis le serveur arrive, puis évidemment, il les sert en anglais. Puis là, Émilie bredouille en anglais. Elle essaye de commander du pâte au poulet, puis ça fait chicampi. du chicken pot. Puis le site serveur fait exprès de pas comprendre, puis... Ovila se rend compte que le gars, c'est un Québécois. Puis là, il dit, moi, je pense que t'es un Québécois puis tu parles français comme nous autres, puis tu fais exprès pour parler anglais puis faire semblant de pas nous comprendre. Puis là, le serveur, il réagit encore en anglais, fait semblant de pas comprendre. Puis là, Ovila saisit le bras du serveur puis avec sa main de bûcheron, écrase comme dans un étau son petit bras feluette qui transporte des assiettes. Puis le serveur, OK, on se fout tabarnak! Un des meilleurs moments de la série, puis qui dépeint encore une fois cette réalité-là du début du 20e siècle. Oui?
Non, j'ai juste dit le beau Ovila.
Le beau Ovila. Puis hein, plus il vieillit, plus il est beau, puis plus il fait chier.
Le sauveur de rivière.
C'est ça, lui mûrit pendant que nous autres, on pourrit.
Pourrit, ça.
bon, fait que oui, ça
fonctionne. Mais hey, Frank,
oui?
Y a de quoi, moi, que je ne sais pas si tu avais l'intention d'aller là, mais moi, en faisant un peu de recherche aussi de mon bord, j'ai appris quelque chose que je ne savais absolument pas. C'est qu'il y a plusieurs pays se sont t'inspirer de la loi 101 pour appliquer des règles et de sauvegarde de leur langue native.
Comme la loi tout bon en France, mais qui n'est pas respectée en fait, par tout.
On parle de la Lituanie, on parle de la Chine, on parle des Pays-Bas, on parle, écoute, on parle d'Israël, des Pays-Baltes. C'est tout, semblerait-il qu'ils ont tout, ils se sont tous pas inspirés. Là. Je te parle pas de faire un cut and paste, putain, signer ça à l'Assemblée nationale de l'Europe. Ouais. Je savais pas ça.
Qui sont inspirés de nous, je pense pas, là.
Ouais, absolument.
Pour vrai?
Absolument. Dans le cas de la Lituanie, d'ailleurs, même, tu sais, dans les recherches que j'ai faites, là, ils mentionnent le nom du législateur, puis tout ça, là. Puis okay. Ça a été une des premières instances législatives officielles à mettre en place une loi comme telle, dont le seul but était de protéger une langue.
Ben, en France, depuis 1994, il y a la loi Toubon, qui est justement pour protéger le français, puis cette loi-là est supposée, si je me trompe pas, là, obliger tout l'affichage, puis toutes les communications des entreprises, faut que tout ça se fasse en français, mais c'est pas protégé partout, c'est pas appliqué partout. De toute façon, le français est pas en danger en France, puis eux autres, dès qu'ils entendent un mot anglais, ils font dans leur culotte, tellement qu'ils sont excités. Là.
Mais là, la loi tout bon, c'est-tu du verlan, ça? On dirait que c'est du verlan.
non, c'est le nom du ministre de culture de la culture en 94, Jacques Toubon. Moi, j'ai appris l'existence de cette loi-là en écoutant des moments d'improvisation de Sugar Sammy, qui va en France, puis il parle justement de la protection du français au Québec, puis il dit « Avez-vous ça en France? » Puis ce qui est drôle, c'est qu'il vient juste de parler avec des Québécois qui sont en France dans la salle, puis ils racontent qu'ils ont commandé un Mac Poulet au McDo, puis ils ont jamais réussi à se faire servir ça parce qu'ils comprenaient pas de quoi ils parlaient. Il fallait dire un Mac Chicken. Fait que c'est ça qui a amené Sugar Sammy à parler de la protection du français. Puis là, il a dit, avez-vous ça en France? Puis là, il y a un spectateur qui dit, ben oui, on a la loi tout bon! Ça oblige les sociétés! Parce qu'en France, une compagnie, c'est une société. Ça oblige toutes les sociétés à communiquer en français, afficher en français, avoir des produits en français. Fait qu'il a dit, oui, comme le McChicken. T'sais. Autrement dit, c'est pas appliqué par toutes. Puis c'est normal, parce qu'ils en ont pas besoin. Le français est pas en danger en France. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ils sont tous émoustillés dès qu'ils entendent un mot anglais, même s'ils sont pas capables de les prononcer, puis qu'ils se font un plaisir de les démolir, là.
Ah ouais,
ils prennent des titres de films en anglais, ils traduisent le film en français, mais ils mettent un autre titre en anglais, mais qui fait pas de sens. Leurs anglicismes font pas de sens en France. Hein. Puis, si vous aimez l'humour, allez voir Paul Taylor. Franglais, je me rappelle plus comment ça s'appelle son show, mais il fait un show totalement bilingue, français-anglais, puis il parle beaucoup de ça, puis il parle notamment en France des anglicismes qui ne font aucun sens. Par exemple, faire du footing. C'est ce que ça veut dire, faire du footing?
Ben, il me semble que oui, là, mais je t'écoute. Là.
C'est faire du jogging.
Ouais.
Mais eux autres, ils ont inventé un mot, du footing, qui veut rien dire en anglais, qui veut pas dire ça, en tout cas. Faire du footing, c'est pour eux autres, ça, c'est faire du jogging.
Ben,
jogging, c'est le nom qui donne aux pantalons. Puis eux autres, des souliers de sport, c'est des baskets.
Ben ouais, mais c'est ça, c'est quoi le rapport? C'est vrai de ça, je m'en allais te dire, tu sais. C'est quoi le lien causal entre des baskets puis... Anyway, regarde.
Ben, il faut jouer au basket. Au basket, moi, je joue au basket. Mais là,
c'est pas le seul sport que t'as besoin de souliers de même, là.
Mais eux autres, eux autres, ils veulent pas apprendre l'anglais. Ils veulent juste sonner en anglais, tu sais. Ils veulent juste dire des mots en anglais.
Ouais, puis ils sonnent pas anglais partout.
Ben ouais, ils sonnent en français, mais pour eux autres, ils trouvent que ça sonne anglais. Ils pensent qu'ils l'ont, j'imagine, là.
Mais, hey, moi, Frank, j'ai une anecdote. Je pense que je l'ai déjà raconté, fait que je vais le faire vite, mais dans mon ancienne vie, quand je travaillais dans les technologies de l'information, tu sais, parce que tu parlais de l'office, tu sais, l'OLF, l'office de la langue française, mm-hmm. puis qui se doit de justifier son existence, c'est clair.
Et des fois, c'est juste
je n'en ai pas contre l'existence de la loi 101, tu sais, du moment qu'on demeure dans le gros bon sens, tu sais, tu demanderas pas à Second Cup de commencer à s'appeler deuxième tasse, là. Au même titre que si tu voulais exporter le fromage Le Petit Québec aux États-Unis, il l'appellerait pas de Little Québec, là.
Ben tu sais, ben, qu'il est fait en Ontario, il pourrait.
Ben, du coup, ouais, mais c'est ça. Tu sais, je pense que le gros bon sens doit toujours prévaloir. Mais fut un temps où moi, je travaillais dans la technologie de l'information et le gros bon sens ne prévalait, mais pas du tout. Je t'explique, OK? Je vais te donner un exemple. Quand tu fais des ordinateurs portables, des laptops ou des ordinateurs portatifs ou whatever le terme vous l'utilisez, là. Ben, moi, je vais dire un laptop, même si on est dans une chronique de la loi 101. ben, tu sais, il faut comprendre qu'on était, on est, à l'époque, là, on était 7 millions dans un bassin d'à peu près, quoi, 340 millions de personnes. Fait que la disponibilité de ces produits-là, d'un laptop qui a un clavier en français, donc, tu sais, qu'il y a un E accent aigu dessus, que tu sais, que c'est écrit retour au lieu de return, tu sais, tout ça, là, était. C'est ça. Excuse entrée. C'est difficile. C'était difficile de s'approvisionner. Tu sais, puis plus l'entreprise était volumineuse, ben plus les quantités qu'ils commandaient étaient volumineuses. Donc tu me vois venir. Le bas blessait souvent. Tu sais, fait que bon ben là on attendait, puis on travaillait avec les manufacturiers pour voir la disponibilité des produits, puis ainsi de suite. Puis dans le cas des grandes entreprises, ben c'était quand même pas si mal, là, tu sais, parce qu'ils ont plus de budget, donc tu sais, ils faisaient des commandes plus volumineuses. En tout cas, ils à bout de s'organiser. Mais la petite compagnie de comptables, là, tu sais, qui avait 7 comptables qui travaillaient ensemble, tu sais, puis qui louaient du pied courant ensemble pour sauver sur leurs dépenses puis toute la kit. C'est eux autres que l'OLF allait voir, tu sais. C'est eux autres que l'OLF faisait chier, tu sais.
Fait que là, ben, c'est comme la MAPAC. Ils vont voir l'artisan qui fait du pain puis qui te donne une pause, puis ils laissent faire les entreprises qui font des grosses violations puis s'en sac.
C'est ça.
Fait que là, plus aux faibles qu'avec du monde qui ont des avocats, là.
Fait que moi, là, ça, parce que bon, tu te doutes bien que c'est possible d'installer un système d'exploitation en français sur un ordinateur dont le clavier est anglophone. Ben, moi, là, je me suis déjà fait appeler en urgence, là, par, je la nommerai pas, mais par une compagnie, là, qui avait peut-être une trentaine dans le poignet, à l'effet que l'OLF leur donnait 48 heures pour régler cette problématique-là. Puis moi, j'ai envoyé des gars, genre, à 95$ de l'heure, mettre des stickers sur des E, là.
Des E accent aigu, des collants de E accent aigu sur un E?
Genre, ouais, des trucs de même. OK? J'ai fait ça, mais, puis là, je peux te dire, au fur et à mesure que ma carrière dans ce domaine-là continuait, ben, je suis venu, par la chance et mes efforts, ben, je suis venu à gérer des clients plus importants. Tu sais, je te parle en quantité de ce qu'on appelle des nœuds, là. Tu sais, combien il y a d'ordinateurs sur le réseau, puis ainsi de suite. Ces entreprises-là ne se sont jamais fait chier, là, par l'OLF. Jamais, là. Il n'y a jamais un agent de l'OLF qui est débarqué chez Air Canada, là, pour checker s'il y a des accents aigus, là.
Ben non, parce que ça crée beaucoup d'emplois, ça paye des impôts, des emplois qui donnent
qui
font des payeurs d'impôts aussi, puis que c'est aussi des lobbyistes. C'est trop compliqué. C'est bien mieux de s'attaquer à des gens sans défense. Comme ça, on justifie notre existence, puis on donne l'impression qu'on fait le travail, alors que ce qu'on fait, c'est de la micro-gestion, puis on règle des micro-problèmes qui n'en sont pas en réalité.
C'est ça. Ben oui, mais tu sais, là, il y avait des amendes associées à ça, là. C'est sûr que ça a beau être une loi, tu t'en allais pas en prison s'il n'y a pas d'accent sur ton keyboard, là. Mais tu sais, en fait, c'était surtout que eux autres voulaient juste faire leur business, là, tu sais. Ils voulaient juste pas se faire achaler par l'OLF tout le temps. Puis là, ben, tu sais, je peux même te dire que c'était devenu un running gag, là, parce que tu te doutes bien que nous autres, là, comme représentant là, d'une compagnie en informatique, on était payé, on avait des meilleures commissions quand on bookait des gens pour aller travailler à 100$ de l'heure qu'en vendant un laptop qu'on fait 40$ de profit.
Ben oui,
là,
ben oui.
Right? Fait que là, ben, c'était rendu un peu, puis c'est sûr, autre temps, autre mœurs, j'étais plus jeune aussi, je te parle de ça, ça fait le tournant de l'année 2000, donc tu sais, une vingtaine d'années. Ben, tu sais, c'était rendu qu'on avait la loterie de l'OLF au bureau, là, bon, c'est qui le prochain qui va recevoir le call, puis tout, puis on avait un pool, puis tout, là, je te niaise pas, là. Puis là, ben, puis là, on se disait, hey, il faut peut-être faire la pause des claviers, OK, combien qu'en ont, eux autres? Ah, les autres sont 40, hey, ça, c'est bon, 40, c'est long, ça. Tu sais, fait que... En tout cas, tu sais, écoute, là, puis tu sais, en même temps, tu parlais de colonialisme tantôt, là, tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai pogné ça vite, j'écoutais Sesame Street quand j'étais petit, mes parents m'ont sensibilisé à l'anglais, tout ça, ça n'a pas tellement été long avant que je puisse me considérer bilingue, là, jeune adulte, là, je me débrouillais très bien, puis après ça, ben, ouais, j'ai pratiqué en masse, puis c'est ça.
C'était la vie. Essayer de traduire des tunes de Metallica, puis essayer de comprendre les jokes de Prince of Bel-Air.
Ben, c'est ça. Chacun a sa méthode, mais tu sais, éventuellement. Mais tu sais, je me souviens très bien que j'ai travaillé pour des grandes entreprises, là, je travaillais pour Bell, CGI, une couple d'affaires de même. Puis, mettons qu'on était 6 francophones à fumer une cigarette dehors en pause, puis qu'il arrivait un anglophone, tout le monde parlait en anglais.
On est comme ça, les Québécois.
C'est ça, c'est exactement ça, c'est que, mais c'était pas, tu sais, le monde se mettait à parler en anglais, Il y avait une connotation aussi, je pense, de fierté là-dedans, d'être capable de montrer à tout le monde que tu es capable de parler en anglais. C'est ça, c'est correct, c'est la nature humaine, je peux pas rien faire pour
mais
ça.
C'est aussi une bonne source de fierté de parler plus qu'une langue. Là. C'est en
ben oui, c'est cool, ça, là. C'est bien cool. Mais tu sais, j'ai tout le temps remarqué ça, puis ça m'a toujours frappé, puis là, ben moi, j'étais en mesure de parler en français puis en anglais, fait que tu sais, j'imagine que je me pliais à la masse, tu sais, j'ai jamais fait, ben là, si tu, moi, je parle français, tu vas parler français, tu sais. Mais je suis jamais dit ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait, on est tellement dans certains cas, le Québec, on est tellement un peuple paradoxal ou avec plein de dualités. Tu sais, je veux dire, Céline Dion, on tripe dessus. Quand elle réussit, on chie dessus. Tu sais, on rit d'elle parce qu'elle a broyé devant le pape. Mais tu sais, quand elle était à Charlemagne puis que René Angélil, il a hypothéqué sa maison puis que la mère de Céline t'a arrivé un petit tape 4-track puis a fait écouter ça. Ça, c'est sympathique, ça. Mais tu sais, dès qu'elle a commencé à vendre des millions d'albums, c'est une traîtresse.
Ah ben ça me fait penser
là, c'est comme...
Ça fait penser à un classique de Jean-Luc Mongrain qui raconte que nous autres, les Québécois, quand il y en a un qui réussit, on le traite de crosseur, puis il y a du fourré du monde pour cet argent-là, puis quand le gars réussit, il s'ajoute un beau char, un Cadillac, ben il cache dans le fond de la cour, à place voilà. d'exposer devant son commerce, puis d'afficher sa réussite, parce que si quelqu'un a réussi, c'est un genre de traite, là, tu sais, c'est notre mentalité
c'est
parce que c'est dans notre culture de pea soup. Puis, on était nés pour des petits pains, on était des ouvriers, puis s'il y en avait un qui apprenait l'anglais puis qui devenait un des boss ou qui avait une meilleure job, une meilleure situation, ben il venait de trahir les Français, puis c'était du point de vue des ouvriers canadiens français de l'époque, ben c'était un peu ouais. ça là, puis c'était tout à fait compréhensible. Tu sais parce que
j'ai un autre exemple
avec l'ennemi, c'était apprendre l'anglais à cette époque-là pour avoir un meilleur job, c'était carrément licher le cul de ceux qui t'exploitent là. Puis c'était souvent le cas parce que si tu apprenais l'anglais puis t'étais bilingue, ta situation pouvait s'améliorer, mais pas jusqu'à devenir un des cadres de l'entreprise. Tu devenais le porte-parole des boss pour traduire les fucking frogs aux français. Là. Quand ils voulaient engueuler les francophones, là, ben là, t'avais quelqu'un pour les Chris Edouard pour qu'ils comprennent. Là, t'sais. Fait que c'était pas très honorable comme situation. Hein. Fait qu'on est resté avec cette notion-là que ceux qui réussissent, c'est ceux qui font affaire en anglais, on a tout un petit feeling de t'sais, c'est resté dans notre culture.
J'ai un autre méga exemple pour toi, OK?
Vas-y.
Pense là, tu te promènes, mettons, Montréal, Rouen, ça n'a aucune importance qu'est-ce que je vais te dire là, OK? Puis tu vois un gars qui vit dans une maison, appart, peu importe, puis tu sais, son rideau, c'est un drapeau du Québec. Qu'est-ce que tu te dis? Poteux. Automatique.
Ouais, un assurantiste.
Okay? Ben, ouais, mais ouais, non. Au-delà de ça, tu te dis poteux. Poteux. OK?
Ouais.
Va aux États-Unis. Il y a un drapeau des États-Unis après chaque hostie de maison. Ouais. Personne pense que c'est des poteux.
Mais non. C'est... Bon, mais eux autres, là, ça fait partie de la religion. Là.
Ben oui, mais c'est justement, c'est parce que tu sais leur indépendance, ils l'ont acquis, puis tu sais ils sont,
ils en sont morts.
Tu sais, il y a du monde qui est mort pour qu'il existe ce drapeau-là. Pas ici.
Mais non. Le pouvoir puis l'indépendance, c'est pas quelque chose que tu quémandes, c'est que le pouvoir, il n'y a jamais personne qui va te le céder, faut que tu l'arraches à celui qui l'a, je pense que c'est Duplessis, yes. Encore qu'il a dit ça, le monde va penser que je tripe sur Duplessis.
Je pense que oui, un petit peu quand même, je pense.
Je trouve intéressant parce que c'est un premier ministre qui a marqué le Québec, là, mais je suis pas un fan au sens où...
C'est quoi ta série TV préférée produite au Québec? Arrête, c'est Duplessis, je le sais.
Non, il serait dans le top 3, c'est certain.
Bon, sors-moi pas lancer compte avec ça.
Mais oui, effectivement, Duplessis, j'ai adoré ça. C'est ce qui m'a donné le goût de m'intéresser plus à ce politicien-là qui était vraiment marquant. Mais effectivement, les Américains, leur souveraineté puis leur patriotisme, ils l'ont mérité, il faut leur donner ça. Nous autres, on quête notre souveraineté, puis c'est pas comme ça que ça marche. Puis c'est pas comme ça non plus qu'on va se donner une identité forte. Puis, quoi que, tu sais, moi, le monde parle de l'identité québécoise comme c'est important. Puis moi, je sais pas, ça me touche pas. Est-ce que je suis un mauvais Québécois ou est-ce que je suis un de ces citoyens du monde, même si je voyage jamais parce que j'ai pas une Christie de Seine? Moi, je ressens... Oui, je suis fier d'être Québécois. Oui, je suis fier d'être Québécois. Mais pas tant que ça. Là, je veux dire, là, je pense pas qu'être Québécois, c'est tant plus hot qu'être Manito. Ouais, Manitobain peut-être, mais...
Hey, on salue tout le monde du Manitoba, hein, Saint Boniface, là, toute la gang, là, c'est en party. Là.
Attends un peu, faut voir si tu dis ça en anglais, ils parlent pas français, eux autres.
Ben, il y en a 3-4.
Non, il existe pas, je crois pas à ça.
Ah, Daniel Lavoie, OK? le gars que ma mère trouve donc beau, il s'aime, puis tout ça, là, ma mère
très tue. Il s'aime comme des enfants.
Comme avant, la menace et les grands tourments. Hey, c'est-tu
comme
pas d'actualité?
Comme la menace et les grands tourments. Il y a une cure, hein, ça. Fais-y entendre sa toune de rap, là, le pape du rap. Là.
Ben oui, je le sais tout. Écoute, tu penses pas que ça a pas joué chez nous?
Ben, crime, mais normalement, que si elle a entendu ça, elle est plus supposée l'aimer, ben.
C'est pas grave, Frank, il est beau, OK?
Il est beau. Ma mère aimait pas le piché, elle.
Ben, tu vois.
De l'aimer encore.
C'est tous des artistes internationaux qu'on célèbre le 24 juin sur le bord d'un feu bien sous avec une guitare mal accordée.
Oui, j'aime bien ça que tu précises mal accordée. Hey, je vais juste finir un peu avec la loi 101. Attaques qu'elle a subies au cours des années, je ne les ferai pas toutes ni en détail, mais au moins juste vous donner une idée. Là, j'en ai fait allusion tantôt, l'arrêt Blakey en 79. L'essentiel du chapitre de la loi 101 qui était consacré à la langue de législation de la justice a été déclaré contraire à l'article 133 de la Constitution canadienne. Donc, on est encore... La Constitution canadienne, le fait qu'on est dans une fédération, va prévaloir tout le temps sur ce qu'on peut faire au provincial. En tout cas, c'est ce qu'ont décidé les juges de la Cour suprême, d'ailleurs tous nommés par le fédéral, ben pas tous, mais pas mal tous nommés par le fédéral. En 84, c'est la règle, tantôt j'ai parlé de l'école anglaise, là, qui réservait l'école anglaise aux anglo-québécois, a été attaquée aussi, puis avec succès, au nom de l'article 23 de la Charte canadienne, d'accord, mais ça dépend de cette charte-là, ça donne droit à l'école à tous les Anglo-Canadiens qui s'établissent au Québec, donc pas juste dans les critères que j'ai énumérés précédemment. Okay. L'arrêt Ford en 88, au nom de la liberté d'expression, on a décidé que la règle qui rendait l'usage exclusif du français dans l'affichage commercial était inconstitutionnel, c'est pas ça que donné lieu aux exceptions qu'on connaît. Il y avait déjà beaucoup d'exceptions qui affaiblissaient cette prédisposition-là de la loi. Eh bien, elle a été carrément déclarée inconstitutionnelle par la Constitution canadienne dans laquelle on a choisi de continuer à vivre à deux reprises lors de deux référendums perdants pour les souverainistes. En 2005, l'arrêt Solski a évoqué encore l'article 23. La Cour suprême a remplacé le critère « majeure partie de l'enseignement reçu en anglais » par celui d'une partie importante de l'enseignement... Faut-il, je vais le dire comme il faut, là.
Ah ouais, prends-toi, là. Dis-le en français, là.
En 2005, dans l'arrêt Solski, je vais le lire, crime. Invoquant le fameux article 23, la Cour suprême remplace le critère de la majeure partie de l'enseignement reçu en anglais par celui de la partie importante, de manière à ouvrir davantage l'accès à l'école anglaise. Fait que c'était plus juste la majeure partie qui devait être de l'éducation qui devait être reçue une partie importante. C'est lousse, ça laisse place à beaucoup d'interprétations, puis évidemment, ils ont joué là-dessus pas mal.
Hey, toi, le jeune, tu cherches une job où tu n'auras pas besoin beaucoup de réfléchir, où tu pourras mettre toute ta créativité de l'avant, deviens législateur. Majeure partie à plus grande partie. Écoute, là, c'est la même affaire qu'avec les questions de référendum. Tu sais, trouve-toi une job là-dedans, rédacteur de cossin de même. Là,
oh, ouais, de piège là, puis de jouage avec les mots. Ça a fait que ça a donné encore plus d'accès à l'école anglaise. C'est ça que ça a fait, parce que ça a donné des autorisations particulières pour les écoles privées qui n'étaient pas subventionnées, qui pouvaient se soustraire à la loi. Tu sais,
Mais sais-tu qu'est-ce que la loi 101 prenait pas à l'époque en considération, puis c'était différent, puis ils pouvaient pas le savoir, puis je comprends tout ça. Mmh. C'est que c'est pas juste la réalité que cette loi-là soit mise en force. Je l'apprécie dans le cas de l'immigration, je l'apprécie dans le cas des communications officielles, je l'apprécie dans le cas de l'éducation, mais le monde a changé aussi depuis ce temps-là. Là. Puis tu sais, là, si toi tu vends des pattes de break, là, puis t'as une petite shop de pattes de break, là, ben je m'excuse, mais si tu veux faire de l'argent avec ta petite shop de pattes de break, puis si tu parles pas fuck all anglais, ça ira pas bien, mon vieux. Là.
Ah, c'est sûr.
Fait que, puis je suis pas en train de dire que la loi 101 t'interdit d'apprendre l'anglais, là. C'est pas ça que je dis. Mais c'est un peu que de ce, tu sais, il y a une partie aujourd'hui, tu sais, 43 ans plus tard, il y a une partie qui est un peu vétuste, à mon avis, de ça, là, tu sais. Ouais. C'est que tu pourras, oui, tu vas, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, concentre-toi sur ce que, tu sais, à l'interne, ça, je suis d'accord, la législation, le système judiciaire et tout ça, c'est correct. Mais, tu sais, ça tient pas nécessairement à 100%, ça tenait peut-être pas, plutôt, à 100% compte des réalités que sont devenues, tu sais, l'open market, puis la mondialisation, puis tout ce que tu voudras. Quoique là, avec ce qu'on vit présentement, ça va peut-être être plus dur de chipper tes pattes de break au Wisconsin. Mais bon, mais, écoute, là.
Mais l'important, tu sais, le but de ça, c'est d'apprendre le français à ceux qui émigrent ici pour se joindre à notre société, pour que pour que la société puisse continuer de fonctionner en français. C'est pas d'empêcher le monde de parler anglais. J'ai appris l'anglais aussi, puis si tu parles pas du tout l'anglais dans le monde d'aujourd'hui, t'es handicapé, là. Mais
ben regarde la TV, de toute façon, tu sais, tu te fais donner 300 canals avec le forfait de base.
Ouais, 8 en français, tu sais.
Ben c'est ça, là. C'est plate en salle, là.
Puis sur Netflix, le contenu en français n'a pas tant que ça non plus. Mais c'est pas parce que t'apprends le français que
t'es obligé de déliter
tes fichiers dans ton cerveau d'anglais, là, ou que tu vas manquer de place sur ton disque dur là, pour mettre des mots anglais. Là. Il y a de la place pour jusqu'à 7, 8, puis plus de langues que ça. J'ai connu une personne qui parlait 7 à 8 langues. Ben, il dit 7 langues, à l'aise, je me débrouille bien. c'était mon prof de phonétique internationale et diction. Quelqu'un qui parlait 7 à 8 langues, puis qui travaillait dans la langue française, puis qui pourrait travailler dans la langue de son choix. Puis c'est juste des atouts de connaître. Il est pas mort. Puis ben, je sais pas, je pense pas.
quel timing pour demander ça en plus. En pleine pandémie mondiale, mort, quelqu'un qui parle ses langues. Puis je pense pas qu'il ait jamais voyagé.
Puis il y a plus de 70 ans, puis il a voyagé partout dans le monde. Écoute, le monsieur a écrit un dictionnaire allemand créole. Tu sais, je veux dire. C'est un Haïtien qui travaille ici puis qui a travaillé en France aussi, si je me trompe.
T'imagines-tu, tu jases avec ce gars-là. Ouais, toi, 7-8 langues, tu dois avoir voyagé un peu. Non, tu vas rester à Beauharnois, mon enfant.
Il a tout appris ça, la télé-université au Canal 9. Ah ouais.
C'est l'Institut linguistique, mon chum.
C'est sur cette hilarité qu'on va se diriger vers la toune que j'ai choisie, qui est drôle aussi. C'est une toune du groupe fictif de Rock et Belles Oreilles, Les Feux Sauvages, voici Québécois. C'est le crachoir numéro 101, celui de la loi 101. On revient avec Martin.
Vive le Québec libre!
Ça fait 200 ans qu'on se plaint des Anglais, la gang de Porvin, qui arrêtent pas de nous exploiter et qui veulent nous assimiler. On dit qu'on veut être souverain, prendre notre destin en main, avoir un pays qui nous appartient. Québécois, nous sommes Québécois. Au moment de se brancher, on va tous reculer. Québécois, nous sommes Québécois. Thank you.
vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Les casseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent.
Le crachoir, épisode 101, celui de la loi 101. On va lâcher un peu la loi 101 parce que Martin a des informations cruciales à nous communiquer.
C'est pas tellement des informations cruciales autant que quelque chose que moi j'avais pressenti qui malheureusement, ou heureusement, là, dépendamment du point de vue que nos abonnés auront, mais le fameux 2000$.
Ouais.
Moi, dès que cette mesure-là a été annoncée, bon, OK, mettons la table un petit peu.
Oui, parce que je veux là, pas c'est pas, juste 2000 ouais, piastres, je... ça ne dit pas grand-chose.
Non, non, je veux pas, ben, c'est probablement...
Des années après, on ne sait jamais.
Oh, ouais, ouais, c'est probablement le hashtag le plus utilisé en ce moment, là, mais parce que tout le monde parle de ça, mais il reste que, on va expliquer un petit peu, en fait, c'est que il y a une mesure qui a été présentée par le gouvernement Trudeau à l'effet que les gens qui ont été remerciés ou mis au chômage ou peu importe, là, parce que l'entreprise pour laquelle elle travaille ferme ou ainsi de suite.
Ou pour des gens qui se mettent plus en isolement.
Ouais, c'est ça. S'ils doivent avoir soin d'enfants qui sont malades à la maison, tu sais, il y a un paquet de circonstances qui sont très pertinentes. Là, qui
font c'est lié avec la COVID-19.
Absolument. Ces gens-là vont pouvoir remplir une demande en ligne et avoir accès à une aide financière de 2000$ par mois pendant 4 mois. Fait que si vous voulez des informations, là, je suis sûr que vous pouvez trouver très facilement un lien genre canada.ca /coronavirus. Là, vous allez tous trouver ces informations-là. Dès que cette mesure-là est annoncée, moi, j'ai tout de suite eu une épiphanie à l'effet que qu'est-ce qu'il y avait un risque qui se produit. C'est que là, on est d'accord, le gouvernement provincial a établi ce que sont les entreprises et les organisations de services essentiels. Là-dedans, évidemment, tu as les évidences, là, les pharmacies, les épiciers, les dépanneurs, tu sais, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait des médicaments, il faut que, bon, tu sais, le gros bon sens, encore une fois,
au prévalu. La SQDC, tu sais, c'est pour la paix sociale.
Oui, c'est ça. Oh oui, puis moi, je suis 100% d'accord avec ça, by the way, là.
Oui, oh, ben oui.
Parce que t'aurais causé bien des... Ouais, c'est ça, tu sais, t'aurais causé bien plus de problèmes que t'en aurais réglé de farmer ça. Fait que, je suis bien d'accord avec ça. Moi, tout de suite, ceux à qui j'ai pensé, c'est les entreprises qui sont pas d'un domaine connexe à ça. Et je m'explique. Je te parle de producteurs agricoles ou alimentaires. Tu sais, là, il y a du monde qui sont considérés comme étant des services essentiels, mais qui emploient beaucoup de gens qui font pas 2000$ par mois.
Ah.
Fait que là, qu'est-ce que ça donne? Je vais te donner un exemple concret, je nommerai pas personne, mais je parlais avec un entrepreneur cet après-midi qui a, lui, suggéré de faire un horaire rotatif. C'est-à-dire, on roulera pas le même nombre d'heures qu'on roule d'habitude, mais si tu veux continuer d'avoir un emploi, ben regarde, on va couper l'horaire en deux, on va encore faire des chiffres de 8 heures, mais tu vas en faire 4 le matin, après ça, le lendemain, tu vas faire les 4 de l'après-midi, puis ensuite, comme ça, ben tu vas continuer d'avoir un revenu. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ils disent tout, fais-moi ma cessation.
Ben oui, ils aiment bien mieux.
Faire 2000.
Ben oui, fait que ça ben va ouais. faire qu'il y en a qui vont manquer d'employés parce que
c'est, les, voilà.
ils ont plus d'argent avec l'aide gouvernementale. Hey, mais ça veut dire qu'ils étaient vraiment pas payés cher, là. Ils étaient en dessous du seuil de la pauvreté,
non,
ce
mais,
monde-là. Fait pas de peine.
Ben non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, Frank, il y a des gens, là, qui font ça 900$ clair aux 2 semaines dans la vie, là. Mm-hmm. Il existe des
bonnets qui nous écoutent. Martin, je t'arrête, ça a gelé pendant quelques secondes. Recommence. Okay. Tu disais qu'il y avait des gens qui faisaient 900$ clair au début.
OK. Ben écoute, Frank, tu sais, présentement, là, on a des abonnés qui sont en train de nous écouter, qui gagnent en temps normal ça, là, 1000$ sur 2 semaines. Non, mais tu sais, d'alentour d'eux, tu sais, je veux dire, si quelqu'un fait moins, tu sais, je comprends sa motivation, là. Je suis pas en train de dire, faites pas ça, bande de caves. Je fais juste dire que ça crée une réalité qui va fausser les données de la capacité qu'on va avoir de continuer de produire ce qu'on va avoir besoin passer à cette crise, à travers cette crise-là. Parce que il y en a plein de monde qui font ça, 1 000 piastres l'heure aux 2 semaines.
Mm-hmm.
Puis tu sais, ils sont peut-être en couple, ils ont peut-être des colocs. Ils viennent à bout de s'organiser, là. Mais tu sais, à la perspective de t'en aller chez vous pendant quoi, tu sais, 1 mois, 2 mois, whatever, puis de gagner plus, entre guillemets, en participant à l'effort collectif de, tu sais, rester chez toi versus participer à l'autre effort collectif, c'est que nos producteurs, faut qu'ils continuent de produire. Mm-hmm. Mais ils ont pas assez de demandes. Moi, là, la personne que je te parle...
C'est 2 000 $, on le reçoit, mais il va y avoir une facture fiscale à ça, il va falloir payer de l'impôt là-dessus, après coup. Là, fait que pensez pas que...
C'est pas du free money, là. C'est pas du free money.
Non, c'est ça. Puis ceux pour qui ça représente une bonification de salaire, tenez compte de ça, parce que si vous dépensez jusqu'à la dernière scène, moi, ce que je vous suggère, c'est que si vous étiez capable de vivre avec moins que ça, essayez de continuer ce train de vie-là. Puis le surplus, là, gardez-le pour quand les impôts vont vous dire « Hey, on t'a aidé là, dans le temps, là, ben tu nous dois de temps parce que
ben c'était imposable. » Ben non, c'est sûr. C'est sûr. Tenez
compte de ça, là.
Tu sais, fait que ce producteur agricole-là ou, tu sais, transformateur de produits pour faire d'autres types de produits, ben ce qui va y arriver, c'est que là, lui, là, ce producteur-là, il est obligé de continuer à ouvrir l'achat parce qu'il veut continuer de contribuer à l'effort collectif.
Mais sa main-d'œuvre rentrera plus parce que c'est plus payant de rester à la maison.
Puis attends un peu, là, c'est ça. Puis deux, ben là, ils vivent dans une situation particulière parce que là, si c'est de la bouffe que tu fais, ou des produits alimentaires, ben là, ça crie là, d'en avoir. Là. Parce que là, le monde se serre la ceinture, ils ne mangent plus autant au restaurant, fait qu'ils vont aller à l'épicerie. Tu sais, tu comprends un peu mon point. Fait que là, tu sais, je suis pas en train de peser sur un piton de panique, puis je suis pas en train de dire que les mesures de Trudeau sont pas correctes. Mais tu sais, c'est juste ça, c'est que je me questionne à savoir est-ce que ça va avoir une implication sur. Tu sais, là, moi, j'ai lu plein d'affaires, je lis beaucoup là-dessus, tu sais, ils prédisent que c'est à peu près 1 commerce sur 4 qui passera pas à travers, là.
Qui se relèvera pas,
ouais, après ou pendant, là.
Mm-hmm.
Mais, il faudra qu'on continue de manger pareil, là.
Non, non, ça va avoir un problème de main-d'œuvre, c'est certain.
S'il y a plus de producteurs de lait qui sont capables de produire du lait, là, ben là, c'est pas pire parce que, tu sais, il y en a ces tablettes aux épiceries, puis là, ben, tu sais, mais si ces gens-là payaient pas déjà leur personnel des salaires décents, ben, ils vont se ramasser avec personne dans le tracteur, là.
Ben, d'accord, peut-être que ça va forcer l'augmentation du salaire minimum à un moment donné.
Ben, peut-être, ou du salaire universel, ou de, tu sais, là, ça va. Est-ce que ça va avoir des conséquences, tu sais, sur. La c'est façon dont mois, on... Là. C'est ça, là.
Mais est-ce que ça va changer la dynamique de salaire? Puis avec ça, toute l'économie va changer. Le prix. Si les salaires changent, les maisons vont changer de prix. Tout va changer de prix.
C'est sûr.
Ça va
c'est
suivre,
sûr hein, que l'inflation va moi, je veux pas faire paniquer personne, là. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, j'ai passé justement dans un épisode sur la tête des hommes là avec Jérémy Rivard, justement notre chum là. Mm-hmm. Puis c'est d'ailleurs pour ça qu'il est plus pris là, puis qu'il n'a pas été capable d'être avec nous autres la semaine passée puis cette semaine. Mais moi, le point que j'ai fait valoir, c'est que la réelle crise, c'est pas de diminuer ce qui est en train de se passer quand je dis ça, mais
il y a une autre crise qui s'en vient après la crise.
Il y a une autre crise qui s'en vient, puis elle va être économique, puis ça va faire mal. Là. Ça va être une
récession,
là.
C'est certain. Là. On n'arrête pas la business sans conséquence pendant des mois comme ça. Là. T'as pour rien que Trump capote, puis qu'il veut faire plaisir à ses amis au risque de contaminer la moitié de son pays. Là.
Il exact. Veut ouvrir, préparez-vous. Ceux qui nous écoutent, préparez-vous, tu sais, serrez-vous à ceinture, faites des épiceries, tu sais, pensez pas, tu sais, je veux pas empêcher non plus les restaurateurs de faire quelques pièces, là, mais tu sais, attelez-vous parce que ça va être difficile. Quand ça va être le temps de recommencer, ça va être difficile. Puis l'autre question que je me pose, je reviens à mon producteur, là. Fait que mettons que la personne a dit non, moi, fais-moi ma cessation d'emploi, je veux m'en aller chez nous. Mettons, ça prend 4 mois avant que tout revienne à la normale. Mettons qu'il revient chez cet employeur-là. Tu peux être sûr que l'employeur va dire « Fuck you, là. Quand j'ai eu besoin de toi, t'as préféré sacrer ton camp chez vous, faire 2 000 $? » Fait que, tu sais, est-ce que ça va ajouter un stress quand la reprise va être devant nous autres, tu sais, quand ça va être le temps de tomber en mode production, là, tu sais. Fait
que, en tout cas, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y aura toujours des Mexicains pour combler ses emplois à petits revenus?
Ben là, écoute, ça va peut-être être plus difficile pour eux autres de venir passer 3 mois ici aussi là, pour faire ça. Là. Moi, je me rappelle, là, j'habitais à Pointe-Calumet.
On va pas tomber à 4 mois. Dans 4 mois, on ne retombe pas normal. Paf, on rouvre tout.
Non.
On fait plus attention. Le coronavirus ne sera pas éradiqué, rendu là. On sera même pas...
Non, mais même au-delà de ça, Frank, économiquement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va transformer, révolutionner le modèle du travail à la maison. Ça va.
Ah oui,
le modèle. Moi, je vais vous le dire. Là, le télétravail, là, moi, là, j'ai 47 ans. OK? Puis au début des années 2000, quand je travaillais pour une grosse compagnie d'informatique, je passais déjà peut-être 3 jours en télétravail sur 5. Okay, j'avais des meetings le vendredi. Le reste de mes journées, c'était des rencontres avec des clients. Puis si j'avais pas de rencontres avec mes clients, je faisais toutes mes affaires de chez nous. La raison pour laquelle le télétravail n'est pas encore autant implanté, alors qu'on est à une ère où on parle de conciliation famille-travail et tout ça, la seule raison, c'est parce que les personnes qui gèrent les grosses équipes, c'est des personnes d'un âge que eux autres, si je te vois pas travailler, tu travailles pas.
Ouais.
C'est juste ça la raison. Fait que si t'es pour te pogner le cul, ben tu vas venir te le pogner le cul devant moi. C'est ça la raison. Sauf que là, ce qui va arriver, c'est qu'avec le vieillissement de la population, les gars comme moi de 47 ans, si un jour je me ramassais manager d'une équipe de vente de 20-25 gars, je vais avoir travaillé de chez nous, moi, déjà.
Non, fait tu vas reconnaître tout. Ouais, mais c'est ça, je veux dire, c'est normal que cette génération-là soit pas à l'aise.
Ouais, mais Frank, avec 20 ans,
mais
on n'aura
pas le choix, là, parce que là, c'est de force que ça rentre, là, le télétravail, parce que là, c'est par obligation, puis ils n'auront pas le choix de reconnaître que, un, ça fonctionne, mm-hmm. puis deux, que l'avenir passe par là, puis l'autre, il n'y a pas rien que ça.
Il n'y a pas juste ça, Frank. Pense au coût du pied carré pour repérer un bureau.
Toutes les loyers qui vont être sauvés par les entreprises. Puis il y en a beaucoup justement qui vont chercher à faire ce genre d'économie-là au sortir de la crise qu'on vit là. Ils vont vouloir peut-être crime s'il y a moyen. Ça a marché télétravail pendant 4 mois, puis je paye mon loyer.
Mais là, ça marchera plus.
Je vais laisser faire le local, puis je vais me prendre juste un bureau pour moi. Il va être à la maison pour là de ça. Puis je vais gérer ça à partir de là. Ben oui, pourquoi pas.
Pense à l'électricité qu'on va sauver. Pense au trafic sur les routes. Pense au gaz à effet de serre. Pense à les places disponibles dans les garderies. Pense à tout ça, là.
Ça va révolutionner.
Faut pas tomber dans l'autre perversité qui serait on veut plus se voir et on se parle plus, là.
Non, je pense pas, mais.
C'est
chez nous, là.
C'est ça, là. Tu sais, fait que ça, c'est toutes des affaires, tu sais, qui ont rapport avec le virus, mais là, tu sais, je voulais en parler parce que là, on se parle pas du virus lui-même puis du nombre de morts puis tout ça, mais les conséquences que ça va avoir, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le monde économique, de l'emploi, tu sais, tout ça, là. Je veux dire, le nombre de travailleurs autonomes, le nombre de gens qui travaillent de chez eux, il arrête pas d'augmenter. Mais le nombre de personnes qui peuvent faire du télétravail, lui, il change pas. Tu vois encore le paquet de moutons de transport en commun partir de la rive nord puis de la rive sud puis s'en aller au centre-ville à tous les jours. Puis je m'excuse, mais ils sont pas tous obligés de faire ça.
Non, puis d'ailleurs, le télétravail pourrait être une partie de la solution pour les réchauffements climatiques, pour les changements climatiques aussi. C'est toujours lors des crises qu'une société évolue. Hein? Je veux dire, c'est le seul bénéfice des crises, des guerres, ces choses-là, c'est que souvent on en sort avec parce qu'on a été obligé de changer nos façons de fonctionner, d'améliorer nos performances, d'améliorer notre sécurité, d'améliorer les conditions sanitaires. L'humanité, elle marche comme ça. Il faut qu'elle soit forcée de s'améliorer. Puis ça passe par des crises. Puis la guerre, ça a fait avancer la médecine, ça a fait avancer les transports, mm-hmm. ça a fait avancer toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a plein de bénéfices aux crises. C'est sûr que c'est mieux pas avoir de guerre, puis qu'il y ait pas un maniaque qui décide que les Juifs méritent pas de vivre. Là, je suis pas en train de faire l'apologie de la guerre ou de dire que les crises c'est une bonne chose. Puis je suis pas non plus de ces pasteur ridicule comme un des conseillers spirituels de Donald Trump qui dit que le coronavirus est une punition pour l'homosexualité. J'essaie pas de trouver tout le temps des grands sens. J'essaie pas toujours trouver des sens profonds au conflit, puis je pense pas que c'est un signe ou bien que la planète se venge des humains en sortant le coronavirus. Puis ça, c'est juste de la pensée magique, là, de ridicule. Là. Mais l'effet est bien réel. Quand il y a une crise, L'humanité doit sortir ce qui a le meilleur d'elle-même et pour trouver les solutions, pour sortir de la crise, pour assurer la survie de l'espèce. On en revient à ça. Là, tu sais, je veux dire, c'est le principe de l'évolution. Quand une espèce est menacée, c'est là qu'elle va performer. Ou ben en tout cas, les humains, on marche comme ça. Là. Quand on est menacé, c'est là qu'il y a des baby-booms. C'est là qu'on apprend à faire toutes sortes de choses, que nos technologies évoluent, que notre morale évolue aussi. Des discours antisémites, d'après moi, ils étaient beaucoup plus acceptés avant la Deuxième Guerre mondiale qu'après. T'sais.
C'est sûr.
On a évolué moralement en tant que société grâce à cette guerre-là. Ça fait drôle de dire grâce à Hitler. Merci, Hitler. Non, mais...
c'est pas ça que t'as dit non plus.
Non, je sais, mais ça pourrait avoir l'air de ça pour quelqu'un qui est mal intentionné puis qui interprète tout croche. Puis il y en a des fois. Le bénéfice des crises, c'est que souvent, on a certaines avancées sociales, morales, technologiques... ça va faire ça encore cette fois-ci pour cette crise-là. Je suis pas en train de dire que c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, pas encore, mais ça reste quelque chose de majeur, de planétaire, qui va changer la société puis le mode de vie des humains de partout sur la planète. Puis je pense qu'il va y avoir du bon à retirer de ça à travers tout le drame de cette catastrophe-là.
Ben écoute, avant de te présenter ma toune, je te laisse sur une citation de Winston Churchill, je te la fais en anglais puis on la traduit. « Never let a good crisis go to waste ». Ça veut dire ne gaspillez jamais une bonne crise. Ben tu viens d'énoncer ça de la meilleure des façons. C'est qu'il va sortir du positif de ça. Faut passer à travers puis n'allez pas penser qu'après que le virus va être sécurisé, whatever, le contrôler, ou qu'il y aura un vaccin, ou que, tu sais, ça ira mieux, que la pandémie s'en ira, il va y avoir une autre crise qui va commencer, puis il faut qu'on soit prêt. Et on a à peu près strictement rien que parlé d'argent depuis le début, alors comment ne pas se gâter un peu avec un bon vieux Floyd Money?
Thank you. certainly was in the right.
Le crachoir, épisode 101, celui de la loi 101. On va être rendu à la poutine et au mash-up, qui n'est pas un mash-up cette semaine. Ça fait une couple de fois que je vous prive de mash-up, mais je pense que je vous sers quand même des affaires assez intéressantes. Mais avant, Martin, t'avais quelque chose?
Ben, avant, je me fais un petit shout-out à moi-même parce que j'aimerais vraiment ça partir de quoi, si vous êtes game, si vous êtes d'accord avec moi. Moi, dimanche dernier, écoute, j'étais, mon écœurant titre des sans-dessins commençait à être en pleine effervescence. Alors, j'ai parti, bon là, parti. J'ai commencé un hashtag qui s'appelle Ménage du dimanche. Vous n'êtes pas obligé de le faire le dimanche. Je vous explique. Quelqu'un d'abord, OK? Vous êtes tous comme moi, vous ne connaissez pas personnellement chacune des personnes avec qui vous êtes amis sur Facebook.
Je connais les 5000.
Moi, je les connais pas toutes. Puis là, tu sais, fait que des fois, tu reçois des demandes, puis moi, je fais beaucoup, ceux qui me suivent sur Facebook le savent, je fais beaucoup de promotions de nos affaires, podcast.com, peu importe les autres trucs dans lesquels je suis impliqué. Tu sais, moi, j'ai pas un Facebook de photos de spaghettis, puis d'affaires comme ça. Fait que... Qu'est-ce qui arrive? Ça arrive que des fois, tu regardes ton fil, puis là, tu te rends compte que quelqu'un que t'as ajouté, c'est un cabochon. Puis, tu sais, ben là, t'as l'option de soit de le déliter ou d'être un opportuniste crasse comme moi et de juste me désabonner, mais de le garder comme ami pour qu'il continue de voir mes cossins. Bon, mais là, j'ai décidé que je voulais un petit peu, comme quelqu'un me l'a dit, Éric Laforce, pour pas le nommer, je savais pas que tu collectionnais autant d'Illuminati dans tes amis Facebook. J'y ai dit, si tu as saisi le sens de ma démarche, je ne les collectionne plus. C'est-à-dire, je vous explique, je vois un post passer sur mon fil d'actualité qui se lit comme suit. Je vous le dis tout de suite, je nomme personne, puis quand je fais des screen grabs, j'enlève les gens. Là, le but, c'est vraiment pas de shamer qui que ce soit, mais c'est juste de le flusher. Les médias disent, non, ce n'est pas vrai. Non, c'est faux, ça prouve rien. Oui, c'est un virus manipulé, bande de salauds. Fait que moi, j'y ai répondu, eh ben, tu viens de disparaître de mon Facebook et pose-toi pas de questions, c'est manipulé, c'est moi qui le fais. Bonne chance. Fait que moi, ce que je fais, c'est que tout de suite après, là, je prends un screen grab de ça, puis après ça, je fais une publication en prenant soin d'enlever le nom de la personne, parce qu'il est peut-être médicamenté, whatever, tu sais, je sais pas toute sa vie. Et j'ai appelé, armé, ouais, et j'ai appelé ce mouvement-là, Ménage du dimanche, ça me fait du bien. Ça me fait me dire que je mets les babines à même place les bottines parce que je dis à tout le monde, arrêtez de véhiculer plein de cossins qui n'ont pas d'allure. Fait que là, je vais être rendu à 5
vie tranquillement. Hein?
Ouais, c'est ça. Je suis rendu à ça. Puis ça me fait du bien. Ça
moi
me
aussi,
fait
j'ai
penser
commencé
à d'autres
moi, je délitais jamais personne. Je tolérais tout le monde. Puis, sauf que là, à un moment donné, j'en ai trop. J'en ai trop de Christine Mongol. Là, des vrais fous. Là, des vrais fous. Là, des théories qui se tiennent pas. Puis des flat earthers. Puis... des hosties de fous, là. Puis des racistes, puis ça, les racistes, c'est automatique. J'ai bye, là. T'sais, ça, je veux même pas ni de près ni de loin. Des sexistes, des homophobes, tu sais, des histes, j'en veux pas. Puis des conspirationnistes, j'en veux plus non plus. Fait que j'ai commencé à en déliter quelques-uns.
Ah,
je vais acheter le hashtag Ménage du dimanche, j'aime bien ça. Je vous avoue, c'est une maudite bonne idée parce qu'en même temps, tu sais, ça
Ça sensibilise.
Ouais, ça sensibilise. Puis s'il y a plusieurs personnes qui embarquent là-dedans, ça va assainir Facebook total. Tu sais,
c'est notre
large. C'est Facebook québécois, mettons, là. Puis, puis ça
n'est
pas une mauvaise chose.
C'est notre petite contribution. C'est notre petite contribution.
Qui se parlent entre eux autres, là, avec les deux, trois centaines d'autres amis flat earthers, là. Puis qui se sentent puissants dans leur petite gang, là. Puis, on n'a pas besoin de se faire chier avec ça, tu sais.
Je t'en chaud
d'une coupe d'autre.
C'est
bien vouloir à tout prix un gros nombre d'amis, mais comme disait je sais plus qui, mais j'ai adoré ça. Avoir beaucoup d'amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
Voilà.
C'est pas des vrais amis. Là. Ça peut être pratique pour quelqu'un comme moi, comme toi, mettons, qui font de la promotion de leur show, des choses comme ça. Mais si vous avez un Facebook personnel, avec des photos de vos enfants puis de votre chat, je vous juge pas, au contraire, vous l'utilisez de façon probablement beaucoup plus saine que moi, je le fais. Puis vous êtes sûrement moins là-dessus que moi, puis moins désagréable. Ça, c'est une autre affaire. Mais embarrassez-vous pas, gardez vos vrais amis là-dessus, puis les gens que vous trouvez intéressants, puis de qui vous apprenez. Moi, il y a des gens avec qui je m'entends pas souvent, mais occasionnellement, ils m'apprennent des choses. Tant que j'apprends des choses, je vais apprécier les discussions ou les débats, même les chicanes que je peux avoir avec les, mes amis ou mes ennemis Facebook. Il y en a un avec qui je m'ostinais tellement souvent, je vais le nommer, Jonathan Mondry-Larouche. J'ai pas peur de le nommer parce que je le salirai pas, parce que il y a toujours des bons arguments, puis c'est arrivé souvent qu'en débattant avec moi, il me montre que j'avais tort. Puis ça, malgré ce que certains pensent, j'aime beaucoup ça. Ça fait mal sur le coup, mais j'apprends des choses. Puis après ça, quand je parle de ce sujet-là, ben j'ai plus tort parce que j'ai appris. Puis ceux qui... dans les débats, là, à peu près 103% du temps, là, quand quelqu'un écrit « Ouais, mais toi, tu veux juste avoir raison, puis ton but, c'est juste d'avoir raison, puis tout le dernier mot, tu as raison. » Souvent, c'est parce que vous avez tort, vous avez plus d'arguments, OK? Parce que quelqu'un qui a des bons arguments va les sortir. Puis quand t'es rendu à accuser l'autre de juste... être désagréable, ou ben, tu veux juste pas penser comme tout le monde, puis tu veux juste être différent, ou ben tu veux juste avoir raison. Quand vous faites ça, vous signez votre défaite, là. Ostinez-vous pas si vous êtes pour sortir ça. Ça veut dire que votre opinion, soit vous êtes pas capable de la défendre, ou soit vous avez juste pas les arguments pour, parce que souvent, ils existent pas. Mais moi, me faire dire que je veux juste avoir raison par un flat earther, ça me fait pas de peine ben, je me sens pas très, très fautif, là, tu sais.
Hey, on refait le je vous donne un autre exemple, après ça, je vais vous expliquer comment qu'on fait ça, OK? Il y en a un autre qui est allé écrire, « The real question is, who's benefit... » OK, je vais vous le dire en français, là. La vraie question, c'est, qui tire le plus grand bénéfice du COVID-19, de la fraude du COVID-19? Pas les petites entreprises, certaines. Donc, c'est qui? Moi, j'ai répondu, je le sais exactement à qui. Les clickbaiters, bye-bye, ménage du dimanche. Après ça, j'en ai fait un autre. Écoute, je te dis la dernière, là, dans les popées que j'ai faites, là, ça fait vraiment pas pour me donner du cred. 2700 personnes infectées au Canada, 27 morts égale 1%. Pandémie mortelle, 3 points. Et je vais encore recevoir des bêtises des génies de ce monde. J'y ai répondu. Fait qu'au final, tu seras pas surpris que je te dise bye bye. Vois ça d'un bon œil, tu recevras pas de bêtises de moi. Ménage du dimanche. Fait que là, ce que je répète. Tu prends, t'écris ton commentaire, puis après ça, tu prends un screen grab du post avec ton commentaire en dessous, puis tu barres, tu sais, tu barbouilles le nom de la personne. Le but, c'est vraiment pas de saler qui que ce soit.
Si ça tente, tu peux le laisser si tu veux. C'est public.
C'est comme tu veux, c'est ça. Puis là, ben, ce que tu fais, tu pognes cette capture d'écran-là, puis tu t'en vas la partager sur la page Facebook, le crachoir. Puis regarde, je te le dis, là, si vous le faites, jeudi prochain dans le show, là, on va les regarder, on va les répertorier, puis je vais faire tirer un t-shirt du crachoir là-dedans. T'sais, c'est un bon deal, ça?
Excellent.
Fait que tu participes à assainir un peu un média social, qu'on a la chance de gagner un t-shirt. Puis écoute, nous autres, on est contents, on va pouvoir les lire, puis les autres abonnés vont pouvoir les lire. Pas de cochonnerie, pas d'insanité, pas de fuck you. Soyez intelligents, là, soyez brillants. Les niaiseries, répondre à un cave par de quoi de cave, ben ça te méritera pas un t-shirt. Je te le dis tout de suite, ça va être 100% arbitraire. Fait que soyez créatifs et soyez plus brillants que les gens que vous voulez décrire.
Puis si vous rencontrez des affaires comme de... Oui?
Non, vas-y, c'est correct. Je voulais te laisser aller.
Comme j'ai rencontré récemment quelqu'un qui disait que c'était un virus des hosties de Shintok, de tabarnak, des Chinois, blablabla. Ça, je fais pas juste comme... Je prends la peine de signaler. Signaler ça, c'est du discours à la haine, c'est du racisme.
Voilà.
Ça je vous dis, là, c'est cool, les mouvements, c'est cool. Mettez-les dans votre ménage du dimanche, mais... par la bande, allez signaler les commentaires haineux, racistes, sexistes et homophobes. Je suis pas genre, ah oui, stoulez-vous tous les uns les autres. Il y a des choses qu'on peut tolérer, puis ça en fait pas partie. Il y a des choses inacceptables qu'il faut, en tant que société, dénoncer pour que ces gens-là comprennent qu'ils ont tort, puis que deux, on n'accepte pas le racisme, puis toutes les discriminations basées sur le sexe, le genre, l'ethnie.
Religion?
La religion,
non, non, mais regarde, Frank,
je vais attaquer la religion, attaquez pas les religieux. À part ceux qui font du tort ouvertement, genre un pasteur d'ailleurs que j'ai posté il y a pas longtemps en Afrique, qui prend une guenille puis elle passe en face de ses ouailles une après l'autre puis il dit va t'en coronavirus puis ça tu sais ça, ça vous faut dénoncer ça là. De toute façon je pense que la religion est une incitation à la haine et à l'exclusion, fait que j'ai aucun remords de m'attaquer à la religion.
Mais je vais te backer un peu pareil, je précise, là. On veut que ça soit des trucs qui ont rapport avec la situation actuelle, de un, puis de deux, allez pas sortir un post de quelqu'un v'là deux ans, là, qui n'a pas rapport avec ça, là. OK?
On veut juste mettre un frein à la désinformation, puis dénoncer ces niaiseries-là, puis c'est ça.
On va aplanir la courbe des épais. OK? C'est ça qu'on fait.
Oui, parfait. Parce que la courbe de la conspiration, elle monte encore plus haut puis plus et rapidement. Voilà.
La conspiration aussi, puis le monde qui pense que c'est un hoax, puis le monde qui pense que c'est pas grave à cause du pourcentage de gens qui risquent d'en mourir, puis ça a moins d'importance, là. Ben garde, ils ont juste à aller jouer, continuer de jouer à risque, là. Puis, tu sais, faites-nous pas chier, là. Fait que sur ça, Frank, on va passer à la poutine habituelle, parce que je regarde l'heure, puis on diffuse dans pas long. Mais évidemment, si vous êtes en train de nous écouter sur Radio H2O, ben on vous dit un gros merci parce que vous pouvez le faire tous les jeudis à partir de 20h et c'est en exclusivité. Donc, si vous n'êtes pas capable d'attendre, comme moi, de réécouter Frank parler, ben vous en allez sur radioh2o.ca dès 20h et le podcast est disponible le lendemain à partir de midi environ, 11h30 midi, sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Play, tout bon podcatcher, Android et bien sûr Spotify. J'en profite aussi, Frank, parce que il y a des nouveaux patrons. Oh. Alors, on va les remercier, bien sûr. Donc, il n'y a pas d'ordre et ce n'est pas dans, il n'y a pas de timeline, là. Donc, je dis merci à Alexandre Martineau, Apollo 13, Danny Boivin, le président en chef, Frank Boulay, le camionneur en chef, Gabriel Landerman, SICAM et Woodbreaker Productions. Merci énormément. Puis, on compte sur vous autres aussi, autant que les autres, d'ailleurs, pour contribuer, bien sûr, au mouvement hashtag ménage du dimanche. Là, j'ai bien hâte que tu présentes ta toune, mon Frank.
Oui, j'ai pas choisi un mashup. J'ai choisi une cover, mais bon, premièrement, j'ai choisi une toune québécoise en français parce que c'est quand même le crachoir 101. J'ai choisi une toune de Oscar Tifo. Tu sais, le chanteur de folklore qu'on a tous entendu chanter à Wignan, au temps des fêtes, à toutes les fois, ou bien j'ai fait une banqueroute, ou bien il mouillera
plus. Prendre une brosse.
Eh bien, c'était un peu un espèce de rebelle, un petit bum de son époque, puis il y avait des tounes grivoises. Puis, en tout cas, il y a une toune assez intéressante dont la version originale est facile à trouver sur YouTube en passant, mais j'ai choisi de vous passer la reprise de Carotté, un band de rock folklorique, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Puis d'ailleurs, ils ont invité Vincent Peake de Grimmskunk et Groovy Aardvark à se joindre à eux pour cette toune-là. C'est écœurant. C'est une version de Scott Tifo. La toune s'appelle, attention, Tap la bisoune. On se quitte là-dessus. C'était le crachoir numéro 101, celui de la loi 101. Salut, Martin.
Salut, Frank.
Je vois à la rivière pour pêcher du poisson, zonzon. Rencontre une jolie fée qui s'en allait du long. Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottés, ligodés, ligodons, ligodines. Touchez-y, touchez pas, touchez-y, touchez-y pas, laissez ça, l'homme m'en veut pas. Puis bonhomme, ça va pas, puis tape la bisoune, puis t'approche à la bisoune, puis t'approche encore, puis t'approche toujours.
Moi, c'est pas ça pour faire des farces.
Moi, j'y vois ça pour rire. Les filles qui s'en allaient du long, zon, zon. Mais lui a demandé, aimez-vous le poisson?
Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller. Là, tu fais des culottés, ligodés, ligodons, ligodines.
Touchez-le, mais touchez pas, touchez-y, touchez-y pas. Laissez ça, l'homme m'en veut pas, puis bonhomme ne s'en va pas. Puis tape la bisonne, puis t'approche la bisonne. Et puis t'approche encore, et puis t'approche toujours.
Moi, je dis pas ça pour faire des passes.
Moi, je dis pas ça pour rire.
Si elle aimait le poisson, zon, zon. Elle m'a répondu oui, acceptez les surgeons.
Là, tu fais des pignolés, là tu fais mouiller, là tu fais des pisés. Ligodés, ligodons, ligodines.
Touchez-le, touchez pas, touchez-y, touchez-y pas. Laissez ça, la maman ne veut pas, puis bonne ne sera pas. Puis tape la bisonne,
puis t'approche la bisonne.
Puis t'approche encore, puis t'approche toujours.
Moi, je passe à pour faire des passes.
Moi, je passe à pour rire.
Les surgences en zone, à cause qu'ils sont comme vous, ils sont dans les trous longs.
Là, tu fais des mignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottés. Ligodés, ligodons, ligodés, mais là.
Touchez, touchez pas, touchez, touchez, pas, laissez ça la maman me porte. Puis bonhomme ne sera pas, puis tape la bisonne, puis ta poche, la bisonne, et puis ta poche encore, et puis ta poche toujours.
Moi, je fais ça pour faire des faces.
H2O Web Media.